Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes, au psaume 58. Psaume 58. Et voici la parole de Dieu. Au chef des chantres, ne détruis pas, hymne de David. Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme? Loin de là. Dans le cœur, vous consommez les iniquités. Dans le pays, c'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Ô Dieu, brise-leur les dents dans la bouche. Éternel, arrache les mâchoires des lionceaux. Qu'ils se dissipent comme des eaux qui s'écoulent, qu'ils ne lancent que des traits émoussés. Qu'ils périssent en se fondant comme un limaçon, sans voir le soleil comme l'avorton d'une femme. Avant que vos chaudières sentent l'épine, verte ou enflammée, le tourbillon l'emportera. Le juste sera dans la joie, à la vue de la vengeance. Il baignera ses pieds dans le sang des méchants. Et les hommes diront, oui, il est une récompense pour le juste, oui. Il est un Dieu qui juge sur la terre. Et jusque-là, la parole de Dieu. En 1978, le dissident russe Alexandre Solzhenitsyn, prix Nobel de la littérature, était invité par l'université de Harvard à prononcer un discours lors de la remise des diplômes. Et il a livré une critique plutôt cinglante, de l'humanisme laïque de l'Occident. On peut retrouver ce discours qui était traduit en français sous le titre « Le déclin du courage ». Et Solzhenitsyn, rappelez-vous, a connu la répression communiste et il a fui cette répression pour se réfugier aux États-Unis, mais il était consterné en arrivant aux États-Unis de découvrir un vide spirituel. L'Occident, qui avait autrefois enraciné son idée de liberté dans la relation de l'homme avec Dieu, avait maintenant, comme il le dit, accordé une liberté illimitée simplement pour satisfaire les instincts et les caprices de l'homme. En lieu et place de l'héritage moral des siècles chrétiens avec leurs prodiges de miséricorde et de sacrifice, les gouvernements occidentaux étaient devenus de plus en plus matérialistes. De sorte que le sens de la responsabilité de l'homme envers Dieu et envers la société diminuait de plus en plus. Et Solzhenitsyn conclut que tous les succès techniques, y compris la conquête de l'espace, du progrès tant célébré, n'ont pas réussi à racheter la misère morale dans laquelle est tombé le XXe siècle. Et comme on peut le deviner, ce discours n'a pas rencontré un public très réceptif. La réprimande de Solzhenitsyn à l'orgueil occidental a été accueillie par une indignation. Mais quand on compare ce que Solzhenitsyn dit avec ce psaume 58, on pourrait dire que le discours de Solzhenitsyn était plutôt doux, comparé à la prière de David dans ce psaume 58. Ce psaume est l'un des cinq psaumes imprécatoires de David. C'est-à-dire que ce sont des prières pour le renversement, le jugement des méchants par Dieu. Et ici, en l'occurrence, il s'agit des dirigeants corrompus d'Israël. Le langage de David est si violent qu'en 1980, par exemple, l'Église anglicane a exempté ses membres d'avoir à lire ce psaume 58. Mais cette attitude de l'Église anglicane pour des textes comme ce psaume et d'autres est mal avisé parce que la colère de David n'est que le reflet de la colère de Dieu. Et en tant que tel, il présente un avertissement vital aux méchants. Le psaume 58 devrait donc être une lecture obligatoire, pas un supplément facultatif. Un commentateur a appelé ce psaume un psaume avec une conscience sociale qui reflète l'indignation morale de Dieu. Un autre commentateur décrit ce psaume comme une dénonciation véhémente de la corruption des dirigeants et un appel tout aussi véhément à leur jugement. Et on va le voir en quatre points. Tout d'abord, la protestation de David contre les dirigeants corrompus. Comme j'ai dit, on ne peut pas nier à la lecture que ce psaume emploie un langage qui est inconfortable pour nous, même aujourd'hui. Surtout, par exemple, quand il dit au verset 11 que l'homme juste s'y réjouira, il baignera ses pieds dans le sang des méchants. Les malédictions exprimées par la prière de David sont considérées par certains comme étant non-chrétiennes. Certains commentateurs soutiennent qu'il y a une différence fondamentale entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Après tout, le Seigneur Jésus-Christ, sur la croix, a prié « Père, pardonne-leur ». Il a exhorté ses disciples, en Matthieu 5, verset 44, d'aimer vos ennemis, de prier pour ceux qui vous persécutent. Et certains commentateurs pensent qu'il faut rejeter ces prières imprécatoires et d'autres parties un peu sanglantes de l'Ancien Testament comme quelque chose de primitif, de presque faux, qui a été remplacé par la spiritualité du Nouveau Testament. Mais une approche équilibrée des psaumes, et en particulier de ces psaumes qu'on appelle les psaumes imprécatoires, se rendra compte en réalité que les prières de David contre les méchants ne sont pas opposées à l'éthique du Seigneur Jésus-Christ. Et une façon de voir cela, c'est de noter comment le Seigneur Jésus-Christ a parlé contre les dirigeants de son époque, contre ses responsables religieux corrompus. Il a utilisé un langage tout aussi violent que David. Matthieu 23, par exemple, verset 15, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites !» Et il va plus loin les qualifier de « fils de la géhenne », de « conducteurs aveugles », de « sépulcres blanchis ». Il termine ce discours avec ce langage du psaume 58, « Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ?» Une autre façon de donner un sens au psaume 58, c'est de noter que David n'agit pas avec des représailles personnelles contre les méchants, mais il prie plutôt pour le juste jugement de Dieu. Le Nouveau Testament invite le croyant à s'abstenir de représailles, mais il l'encourage aussi à désirer le châtiment de Dieu sur le mal. L'apôtre Paul écrit en Romains 12, verset 19, par exemple, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Et David a suivi ce principe. David était connu comme un homme indulgent qui a traité ses ennemis avec bonté. L'exemple le plus clair, c'est la tolérance de David. C'était sa bienveillance envers le roi Saül, qui pourtant cherchait à le faire mourir. Et Saül pourrait être la cible spéciale de ce psaume, qui suit le psaume 57 qu'on a vu la dernière fois. En réponse aux attaques du mal, David n'a pas cherché à se venger, il s'est adressé à Dieu dans son angoisse, dans son outrage. Et de cette façon, les psaumes imprécatoires fournissent un exemple pour les croyants. Un commentateur affirme que ceux qui chantent ces psaumes, rappelez-vous, étaient chantés, ceux qui chantent ces psaumes ne sont pas de simples spectateurs. Ce n'est pas une arène, mais un champ de bataille. Et les justes ne sont pas des spectateurs, mais des participants à la lutte contre les princes de ce monde de ténèbres, comme Paul le dit en Éphésiens chapitre 6. Ce psaume 58, c'est donc une prière pour les guerriers spirituels. Elle est dirigée contre les dirigeants corrompus, les méchants d'Israël. Même s'il y a une difficulté de traduction, si vous comparez différentes versions au verset 2, vous verrez qu'il y a une petite différence. Notre version est quand même la bonne. Il est clair que David fustige les dirigeants injustes, mais il accuse les juges d'Israël d'être silencieux. Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Il les reprend alors qu'ils auraient dû parler contre le mal. La première strophe les accuse de silence, nous dit un commentateur. Il nous rappelle que rester silencieux lorsque le mal est planifié est aussi un mal et mérite une condamnation. Est-ce que nous nous opposons au mal? Est-ce que nous défendons ce qui est juste? Toute l'histoire, même l'histoire de la parole de Dieu, montre comment Dieu utilise, par exemple, la protestation d'un seul homme. Là, j'ai noté Ebed-Melech, l'Éthiopien, qui a, par sa protestation, sauvé Jérémie de la mort dans la citerne, Jérémie 38. Dieu peut utiliser une seule personne, juste, pour venir contrecarrer les plans du mal. Les dirigeants, ici, des dirigeants corrompus d'Israël, restaient silencieux devant le mal. Mais David va plus loin. Il dit qu'ils étaient impliqués dans de mauvaises conspirations. Il poursuit au verset 3. « Dans le cœur, vous consommez des iniquités. Dans le pays, c'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance. » Le cœur et les actes sont joints. En occupant des postes qui auraient dû inspirer leur devoir d'afficher la droiture, ces responsables ont plutôt utilisé leur fonction avec une cruauté pour faire le mal. La lecture littérale du verset 3 dit que leurs mains pèsent la violence sur terre. Au lieu d'être juste, ces personnes étaient corrompues, ils pesaient plutôt sur l'injustice dans le pays. Et donc pas étonnant que David soit indigné devant le Seigneur. Il proteste contre ces responsables injustes. Mais deuxièmement, David va plus loin. Il va décrire ces dirigeants méchants. Dans les versets 4 à 6, David va décrire les personnes contre qui il proteste. Verset 4, « Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. » La raison pour laquelle ces dirigeants corrompus pêchent, c'est qu'ils sont pécheurs et qu'ils le sont dès le moment où ils ont occupé le ventre de leur mère. David déclare ici ce que nous connaissons comme la doctrine du péché originel. Depuis la chute d'Adam, chaque être humain possède une nature corrompue par le péché. David lui-même, dans le psaume 51, reconnaît qu'il fait lui-même partie du problème. Voici, psaume 51, verset 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. » Mais David ne mentionne pas le péché originel pour excuser ses dirigeants corrompus. Il veut plutôt dire que ces hommes sont des pécheurs qui n'ont jamais été réformés, qui n'ont jamais été transformés à aucun moment de leur vie. Un commentateur affirme que David ici veut marquer le caractère spécial de ces hommes méchants comme des hommes dont toute la vie a été une carrière continue et incontrôlée de méchanceté. C'était des transgresseurs audacieux, habituels, endurcis. David illustre son point au verset 4 en disant qu'ils sont menteurs. Un cœur corrompu par le péché est inévitablement trompeur. C'est pour ça que le mensonge est l'un des premiers péchés qui apparaît chez les enfants. David parle du danger redoutable que posent ces dirigeants mauvais en les comparant au serpent, à un aspis, à un serpent dont le venin apporte presque instantanément la mort. Ils ont un venin, verset 5, pareil au venin d'un serpent, d'un aspis sourd qui ferme son oreille. Le serpent accro est une image préférée de David pour décrire ceux qui parlent de violence. Mais pire, ils ne sont pas seulement comme un serpent avec des crocs, mais ces hommes sont connus comme un aspis sourd qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, d'un magicien le plus habile. David, bien sûr, fait référence aux enchanteurs d'Orient. Mais il y a une sorte de serpent qui n'entend pas la musique, qui ne peut pas être apprivoisé. Un commentateur décrit que les ennemis de David ont développé, par leur refus d'écouter la vérité, une certaine imperméabilité à tous les bons efforts que toute approche honnête peut avoir sur eux. Ils sont tellement dégénérés qu'ils produisent le mal aussi naturellement et aussi régulièrement que le serpent a du poison sous la langue. Mais quand on étudie un passage comme celui-ci qui dénonce avec force le péché, c'est important de se rendre compte que on regarde non seulement un portrait des autres, mais on regarde aussi dans un miroir où on peut se voir. David pleure peut-être des exemples particulièrement terribles du péché humain, mais les péchés qu'il déplore restent des exemples typiques de l'humanité. On loue Dieu que des hommes et des femmes nés dans une condition de péché peuvent être changés par sa grâce. Mais on réalise aussi que la condition humaine de laquelle on doit être sauvé est toujours totalement dépravée. La description de David des méchants rappelle aux croyants le besoin de soumettre nos cœurs au Seigneur Jésus-Christ pour qu'il enlève le poison mortel que nous pouvons avoir envers les autres, que notre discours apporte la vie, non la mort. Et plus important encore, on doit veiller à ce que les oreilles de nos cœurs soient ouvertes à Dieu, non plus sourdes dans la rébellion, mais humblement attentives à l'appel que Dieu lance dans sa parole. David proteste contre ces méchants. David décrit ces méchants. Troisième point, la prière de malédiction de David. C'est le cœur du psaume 58, c'est le cri de David pour que Dieu agisse contre ses ennemis méchants. Comme j'ai déjà dit, il est indéniable que David utilise des termes violents pour nous dans cette prière. Mais c'est utile de noter les deux catégories générales dans lesquelles David demande à Dieu d'agir. La première catégorie de l'appel de David consiste à demander à Dieu de détruire la capacité des méchants à nuire à leurs victimes. Il prie au verset 7, « Ô Dieu, brise-leur les dents dans la bouche. Éternel, arrache les mâchoires des lionceaux. » David représente ses ennemis comme des bêtes voraces. Il demande à Dieu de briser, d'enlever leurs crocs, leurs dents, leurs mâchoires. Son but n'est pas de souhaiter du mal physique, mais c'est de mettre fin à leur capacité de nuire aux autres. Verset 8, il prie que les flèches des ennemis soient tirées sans pouvoir pénétrer, qu'ils ne lancent que des traits émoussés. Il demande à Dieu que les desseins des méchants échouent dans la faiblesse. Première catégorie, il demande à Dieu de détruire la capacité des méchants de nuire à leurs victimes. La deuxième catégorie, David demande à Dieu d'enlever les effets néfastes des méchants, d'éradiquer leur héritage corrompu, qu'ils se dissipent comme les eaux qui s'écoule. De la même manière que l'eau s'infiltre dans la terre, David demande que l'influence des méchants disparaisse. Et le verset 9 exprime ce désir dans un langage qui est particulièrement dur. Qu'ils périssent en se fondant, comme un limaçon, sans voir le soleil, comme l'avorton d'une femme. David aimerait voir les méchants fondre comme une limace sous la chaleur de la colère de Dieu, ne laissant qu'un résidu visqueux, ou pour utiliser l'autre image, il demande à Dieu d'avorter les desseins des méchants, comme un enfant qui n'entre jamais dans la vie. David demande à Dieu de contrecarrer ses ennemis d'une telle manière que leurs meilleurs efforts soient complètement frustrés. Il imagine un homme qui essaie de faire chauffer un feu avec des épines, sauf que le vent vient éteindre les flammes. Verset 10, « Avant que vos chaudières sentent l'épine, vers toi enflammée, le tourbillon l'emportera. » On ne peut pas nier que la prière de David implique des images crues, des images violentes. Mais on doit se rappeler que David n'agit pas dans la violence contre les méchants. Il prie pour que Dieu s'oppose à eux. David fait appel à la justice punitive de Dieu, à la sainteté de Dieu. David ne commet pas de péché contre ses ennemis, mais il demande à Dieu d'intervenir et d'agir contre ses ennemis. Ceux qui reculent devant le langage de David devront faire des critiques similaires contre les forces alliées qui ont écrasé l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler dans la Deuxième Guerre mondiale, qui a nécessité une violence intense contre les méchants, afin que nous puissions avoir la paix aujourd'hui. On a déjà dit que la prière imprécatoire de David est cohérente avec les dénonciations pleines de colère du Seigneur Jésus-Christ contre les dirigeants méchants. Mais on doit aussi noter que l'appel de David est finalement accompli dans le triomphe du Seigneur Jésus-Christ sur le mal. La prière de David pour briser les dents des méchants a été exaucée quand le Seigneur Jésus-Christ a confondu les tentatives des pharisiens de le piéger. Il a réfuté leurs fausses accusations lors de son procès. La mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ ont fait disparaître la malédiction du péché comme l'eau disparaît dans un sol sec. Elles ont anéanti le royaume de Satan comme une forte brise qui vient souffler sur le feu d'épines. On peut être sûr que les prières d'intercession continuelle du Seigneur Jésus-Christ au ciel pour son peuple comprennent des appels au Père de venir contrecarrer les desseins de ceux qui s'opposent à l'Évangile, de ceux qui cherchent à faire avancer la cause du mal. Une réflexion sobre, donc, montre que nous n'avons aucune raison de juger les prières imprécatoires de David. Au contraire, les prières de David contre le méchant devraient nous remettre en question, nous, encore aujourd'hui. Son exemple nous met au défi d'expliquer pourquoi nous ne sommes pas également indignés contre les actions corrompues, les actions meurtrières de ceux qui nous dirigent. Nous sommes aujourd'hui, en Occident, entourés d'une société qui s'effondre sous les efforts d'hommes et de femmes qui sont déterminés à éliminer les influences de l'Évangile dans la vie civile. Les dirigeants méchants, les élites culturelles proposent, exécutent, protègent des activités qui tombent au niveau des pires maux de l'Ancien Testament. Au lieu de retirer le psaume 58 de notre adoration On devrait en faire un élément régulier de nos prières. Comme exemple de mots qui appellent nos prières imprécatoires, on peut noter que malgré sa fierté pour les droits individuels, l'Occident protège légalement le massacre de milliers d'enfants à naître chaque année. Bien entendu, le croyant doit tendre la main avec miséricorde aux femmes qui ont une grossesse non désirée. Mais on doit aussi prier Dieu avec une indignation pleine de larmes au sujet du meurtre choquant de tant d'enfants. Dans les termes de David, on devrait prier pour que Dieu enlève les crocs des bêtes voraces qui profitent de cette horreur. On peut aussi penser à la pression croissante pour accepter les relations homosexuelles. Et là encore, le chrétien doit faire miséricorde à ceux qui sont pris dans le péché, ce péché qui détruit l'âme. Beaucoup sont victimes d'abus sexuels. On devrait être prêt à se lier d'amitié avec des hommes et des femmes qui sont tombés dans ce péché. Les inviter à entendre la bonne nouvelle de la délivrance que le Seigneur Jésus-Christ apporte. Mais on devrait aussi être furieux contre les dirigeants méchants qui dépeignent comme quelque chose de saint un modèle de comportement qui est dénoncé dans la parole de Dieu comme une abomination qui produit la ruine mortelle sur tant de vies. On devrait dénoncer publiquement l'homosexualité, prier pour que Dieu renverse les desseins de ceux qui faussement font la promotion de ce terrible péché. On peut voir cela dans un autre lieu, dans le milieu de l'entreprise. Être indigné par les scandales, où on voit des dirigeants, des cadres cupides qui s'enrichissent de manière exagérée en escroquant leurs salariés. On devrait brûler d'indignation contre les pères qui abandonnent leur famille. On devrait être en colère contre ces faux prédicateurs qui égarent des multitudes avec des doctrines hérétiques et qui vont nier l'évangile de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. En d'autres termes, le problème aujourd'hui n'est pas que les chrétiens tolèrent les prières impécatoires comme le psaume 58, mais c'est que nous ne prions pas de la même manière contre les fléaux qui nous entourent. Si Néron a joué du violon pendant que Rome brûlait, l'Église aujourd'hui prend des leçons de violon alors qu'une civilisation prend feu. Ça ne veut pas dire que nous devrions cesser d'élever nos enfants pour combattre la guerre culturelle d'aujourd'hui. Mais les Églises ne devraient pas s'identifier en opposition au péché et éclipser leur témoignage au sujet de la grâce de Dieu, du pardon que Dieu accorde en Jésus-Christ. Mais certains chrétiens sont appelés à entrer dans des associations pour combattre les fléaux de la société. Mais tout croyant devrait prier avec un cœur brisé, un cœur brûlant, pour que Dieu intervienne contre ces dirigeants corrompus qui, selon les paroles de David, consomment des iniquités dans leur cœur et utilisent leurs mains pour placer la violence dans le pays. Si le psaume 58 réprimande ceux qui se taisent en Israël, des dirigeants corrompus qui ont refusé de dénoncer l'injustice, la lecture de ce psaume aujourd'hui nous réprimande si nous restons indifférents, si nos voix sont silencieuses, tandis que l'injustice, le mal règne autour de nous. Il y a la protestation de David, il y a la description des méchants, la prière de David, le quatrième point, la prédiction de David au sujet de la réjouissance des justes. Et les derniers versets de ce psaume expriment la joie des justes dans le jugement de Dieu sur le mal. David non seulement prie pour que Dieu abatte les méchants, mais il prie la certitude du renversement des responsables corrompus et la bénédiction de ceux qui ont fait confiance en Dieu. Et l'image qu'il utilise au verset 11 est tirée du champ de bataille, quand les vainqueurs marchent sur la ruine de l'ennemi qui a été tué. Le juste sera dans la joie à la vue de la vengeance. Il baignera ses pieds dans le sang des méchants. À la fin de l'histoire, quand Dieu aura jugé le monde, les ennemis vaincus du Seigneur Jésus-Christ seront tous des personnes dont on a désiré, dont on a cherché le salut dans ce monde, mais dont le jugement ultime sert à afficher la gloire de la sainteté, de la justice et de la puissance de Dieu. La joie des justes n'est pas une glorification qui découle d'une vindicte personnelle. Au lieu de cela, les croyants se réjouissent et se réjouiront de voir la preuve de l'amour de Dieu dans leur délivrance du mal. Ils se réjouiront de pouvoir témoigner de l'exaltation du royaume de Dieu contre chaque rébellion. Un commentateur affirme que la joie dans ces passages, comme le psaume 58, est une célébration de l'espérance de la venue de Dieu, le Dieu qui règne maintenant dans les affirmations de foi et d'adoration, viendra un jour redresser les choses pour toute sa création. Loin de s'opposer à l'éthique bienveillante du Seigneur Jésus-Christ, l'imagerie de David sera accomplie dans le retour du Seigneur Jésus-Christ. Selon Apocalypse 19, versets 11 et suivants, le Seigneur Jésus reviendra monté sur un cheval blanc pour juger, pour faire la guerre. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Et dans les premiers versets de ce chapitre 19, les anges et les âmes rachetées vont le louer avec joie dans sa victoire. Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche. Il a vengé le sang de ses serviteurs. Et le verset 12 de ce psaume 58 conclut avec l'assurance que ceux qui ont fait confiance au Seigneur et qui l'ont servi ne l'ont pas fait en vain. Les hommes diront, oui, il est une récompense pour le juste. Oui, il est un Dieu qui juge sur la terre. Les impies doutaient, se moquaient de la sagesse de servir Dieu dans le monde. Ils pariaient que le jugement de Dieu ne viendrait jamais en réalité. Mais David nous assure que lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, toute l'humanité affirmera que ceux qui se sont engagés avec lui dans cette vie connaîtront la bénédiction pour toujours. Ceux qui ont déjà été aidés par sa grâce tout au long du chemin. Peut-être la meilleure façon pour nous d'appliquer l'assurance de David du jugement final serait de revenir au titre qui est donné à ce psaume. Et là, on trouve que c'est un des six psaumes qui est identifié comme, dans l'original, c'est Miktam, et ici c'est traduit par hymne. Certaines versions ont gardé le terme Miktam. Les chercheurs pensent que c'est un mot qui dérive du verbe graver. Quand on se rappelle que David a composé plusieurs de ses psaumes alors qu'il était dans une caverne, il est donc possible que ces mots aient été inscrits sur les murs de la caverne avant qu'ils ne soient inscrits sur un parchemin. Et à partir de cette suggestion, un commentateur propose cette résolution suivante. Il dit que ces mots aient été inscrits ou non sur les parois rocheuses de la grotte d'Adullam, qu'ils soient inscrits sur votre cœur. Laissez ce dicton ultime être un miktam pour vous. Rassurez-vous sur la base de la révélation de Dieu dans la parole, que les justes seront encore récompensés et que Dieu juge la terre. Nous devons donc chercher refuge dans le seul vrai Dieu et dans le seul refuge que Dieu a fourni, son Fils Jésus-Christ. La personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, cette œuvre qu'il a accomplie sur la croix en payant la peine que nos péchés méritaient. Le Seigneur offre le pardon. Il offre la puissance de vivre, de le suivre à tous ceux qui se repentent de leurs mauvaises actions, à tous ceux qui se jettent sur sa miséricorde et qui croient en son nom. Oui, nous avons cette assurance. Il y a une récompense pour le juste. Il y a un Dieu qui juge sur la terre. Ne soyons donc pas silencieux devant le mal qui est autour de nous. Dénonçons-le, mais en même temps, annonçons ce salut merveilleux, cette grâce merveilleuse que Dieu accorde en Jésus-Christ à tout pécheur qui se repent et qui se tourne vers lui. Et attendons ce jour. Le Seigneur Jésus-Christ reviendra dans sa gloire. Et nous serons avec lui pour l'éternité. Réjouissons-nous que ce jour viendra où Dieu prendra avec lui tous ceux qui ont été justifiés, déclarés justes, revêtus de la justice de Christ. Dieu juge sur la terre et son jugement est vrai. Il est juste, il est saint. Que Dieu nous aide à méditer ses paroles et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.